semaine dans la chose commune sur des contrées du bout du monde et les peuples qui y vivent, avec le géographe environnementaliste Philippe Mistral. Invité par l'association Naturellement Loire en octobre dernier, il proposait une conférence ouverte à toutes et à tous, mettant en comparaison notre société d'hyperconsommation avec les modes de vie des peuples premiers qu'il rencontre. Philippe Mistral nous invite à repenser notre modèle de société. Ses expéditions et projets de conservation lui apportent certaines clés pour revenir parler d'écologie ici, en France, avec une vision réaliste du sujet, mais aussi inspirante. Studio Zef l'a rencontré juste avant sa conférence. Bonjour Philippe Mistral.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, on est avant la conférence, donc je n'aurais pas eu l'occasion de voir la conférence. Peut-être mes questions seront un petit peu éloignées de la conférence que vous proposez ce soir à la Maison de Bégon. Mais on voulait quand même vous donner la parole, puisque vous êtes géographe environnementaliste et vous êtes invité ce soir par l'association Naturellement Loire à la Maison de Bégon pour les soirées optimistes. Géographe environnementaliste, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, géographe, pour le coup, ça c'est une formation classique que j'ai suivie à la fac. Environnementaliste, c'est un peu plus flou, en fait. En anglais, à la limite, ça se traduit plus facilement, mais en français, on va dire que je m'occupe d'essayer d'aider des populations locales et de préserver des milieux naturels qui, pour le coup, sont assez reculés sur la planète, donc pas forcément sur le territoire français. Ce qui m'amène à effectuer des expéditions pour aller sur le terrain. Et ces projets que j'essaie de mettre en place, ils se regroupent un petit peu dans cette catégorie d'environnementalistes, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu l'environnement, mais aussi les populations locales en compte pour essayer de monter des projets de conservation. Alors ça ne se fait pas forcément, en tout cas à l'époque quand j'étais géographe à la fac, c'était pas vraiment un métier qui pouvait... s'effectuer grâce à une formation universitaire ou autre, mais je le suis devenu sur le tas en fait, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, jusqu'à la dernière au sein d'une ONG environnementale où on montait des projets de conservation et d'aide aux populations locales, notamment à Madagascar et en Indonésie. Et donc voilà, c'était typiquement cette activité d'environnementaliste qui ressortait de ces activités-là.
C'est un terme qui est apparu récemment.
Je crois que c'est apparu dans les milieux anglo-saxons il y a peut-être 10 ou 20 ans. Honnêtement, je ne sais pas trop. C'est en essayant de déterminer un petit peu quelle était ma profession que j'ai fouillé un petit peu sur ce qui se faisait. Et je me suis dit, c'est ce qui pourrait se rapprocher un petit peu de mes activités. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas catalogué. Ce n'est pas dans le code Rome, par exemple, du Pôle emploi. C'est vrai que quand j'étais passé chez eux il y a quelques années entre deux boulots pour leur dire que je cherchais un boulot en rapport avec l'environnement et les expéditions, ça rentrait pas du tout dans les cases en fait qui étaient prévues. Donc après, pour la petite histoire, je recevais des offres d'emploi d'expéditeurs en fruits et légumes, en fait, de préparateurs de commandes en fruits et légumes, parce que voilà, ça correspondait aux expéditions à l'environnement pour eux.
D'ailleurs, en préparant cette émission, je me suis dit, est-ce qu'expéditeur, le terme... est valable pour explorateur en fait.
Non, pas du tout. Même explorateur, c'est on va dire que c'est un peu un titre honorifique, mais c'est pas un métier en fait. Pour le coup, j'essaie de faire des expéditions qui ont un but en fait, pas seulement pour explorer un territoire ou pour aller chercher quelque chose, mais plutôt pour protéger un milieu et souvent des populations parce que ça va de pair. Et donc l'exploration, c'est une démarche, mais c'est pas un métier en soi. En fait, c'est pas une finalité pour moi, c'est pas la finalité. Donc aventurier, explorateur, c'est joli, mais c'est pas suffisant pour moi. Il faut avoir un peu plus de suite dans ces projets, d'où la notion d'environnementaliste.
Ce soir, votre conférence s'intitule « S'inspirer des éco-sociétés inspirantes et viables ». Donc j'imagine que les éco-sociétés qui vous inspirent, ce sont en grande partie les sociétés et les peuples que vous avez pu rencontrer lors d'expéditions. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une des expéditions que vous avez faites et qui vous a marqué ?
Oui, alors comme j'expliquais au festival, en fait, ce que j'essaie de mettre en comparaison, c'est notre société de consommation, surtout notre société occidentale d'hyperconsommation même, donc c'est l'extrême de notre côté avec l'extrême de l'autre côté auprès des peuples premiers, en fait. Donc le terme éco-société, c'est pas exact, mais en tout cas les peuples premiers ont en fait exactement ce qu'on n'a pas nous, c'est-à-dire cette addiction à la consommation qui crée des dérives, en fait. Et c'est vrai que souvent on a tendance à essayer de chercher des solutions ailleurs, d'aller chercher des remèdes ailleurs, alors qu'en fait il faut juste déjà regarder un petit peu le mal les dérives de notre société qui font qu'on a du mal-être, en fait. Et quand on compare avec des sociétés un peu plus reculées, qui n'ont pas accès à cette addiction de la consommation, ben on voit tout simplement qu'elles sont restées entre guillemets saines parce que leur système social reste basé sur l'entraide, la coopération, la solidarité, le partage, alors que nous on a dérivé vers des comportements beaucoup plus individualistes, des profils compétiteurs, de la consommation, du zapping. Donc tout ça un peu dépeint un petit peu notre mode de vie, et c'est à travers des modèles de société proches des peuples premiers ou carrément des peuples premiers qu'on retrouve des valeurs un peu plus saines, en fait.
C'est presque de l'ethnologie, votre travail, j'imagine que...
Oui, ça se rapproche beaucoup. Alors, je n'ai pas les compétences d'un anthropologue ou d'un ethnologue parce que ça demande du temps, en fait, pour faire vraiment une vraie étude anthropologique. Il faudrait rester des mois, voire des années au sein d'une communauté. Et j'ai pas cette possibilité là. Donc c'est pour ça que je m'attelle à des micro-projets qui n'ont pas pour objectif d'étudier le peuple premier ou de les transformer complètement, pas du tout, mais déjà de témoigner de leur mode de vie, de témoigner pour nous, en fait, pour notre public occidental, pour notre public français, en fait, au travers de documentaires notamment, mais aussi d'apporter des petites clés de solutions sur place à travers des micro-projets où je sais que je vais pouvoir aider certaines communautés, parce que souvent, il leur manque juste une petite étincelle, un élan, un encouragement, en fait. Leur prouver qu'en fait, elles ont de la valeur, parce qu'il y a toujours des fractures au sein des familles, comme dans toutes les sociétés. Les parents, les grands-parents sont ancrés dans leur mode de vie un peu plus ancestral, et les enfants sont toujours attirés vers l'extérieur. Et quand on a des sociétés, des communautés qui sont déjà un petit peu limitrophes avec notre monde moderne et qui sont tentées par partir dans les villes, ben on risque d'avoir des fractures qui ne se referment pas, des plaies en fait dans la communauté qui ne se referment pas, et les enfants risquent d'oublier la langue. Ça arrive, en fait, souvent c'est des populations qui n'ont pas d'écrit. Donc il suffit que la transmission orale se coupe pour qu'il n'y ait plus d'héritage, en fait. Il n'y a plus de traces, en fait, donc il n'y a plus d'histoire. Et donc là, le simple fait d'aller s'intéresser sur place aux anciens, non pas justement d'aller s'intéresser aux jeunes qui ont envie, en fait, de nous retrouver avec les codes qu'ils voient sur Internet, avec... typiquement, ils sont souvent connectés aux réseaux sociaux, donc ils regardent des clips de rap à l'américaine, ils boivent de l'alcool, et ils ont des maillots de foot, ils ont envie de retrouver ça auprès des blancs qui arrivent chez eux. Et moi, je vais un petit peu à l'encontre de ça, je leur offre pas ça, je vais plutôt m'intéresser aux grands-parents pour montrer justement à ces enfants-là que leurs grands-parents ont une valeur qui, moi, m'intéresse en tant que blanc, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Donc des fois, des simples encouragements comme ça permettent de motiver un petit peu les gens à maintenir leur tradition et leur culture.
Et comment vous faites, par exemple, pour la langue, pour communiquer? Est-ce que vous faites aider de personnes localement, de traducteurs?
Oui, il faut des traducteurs, oui. Des fois, en Amazonie, il y a beaucoup qui parlent espagnol, plus ou moins bien. Les jeunes parlent souvent mieux espagnol, donc je peux m'entendre avec eux. En Indonésie, par exemple, sur ma dernière expédition, il fallait un traducteur. Oui.
Vous avez parlé de l'Amazonie. Quels ont été vos autres terrains de découverte et de travail?
J'avais commencé d'ailleurs à Madagascar avec l'ONG dans laquelle je travaillais auparavant. Bon, là aussi, il fallait des traducteurs malgaches et aussi du dialecte local dans le territoire dans lequel on allait. Donc ça, c'était les premières communautés reculées. Après, en Amazonie, il y en a eu plusieurs, en fait, à commencer par la Guyane française, même si c'est pas des communautés très reculées dans le sens culturel, elles sont quand même en France et elles sont quand même préservées dans un territoire qui leur est dédié. Et l'État français essaie de faire en sorte de maintenir ce patrimoine culturel au maximum dans ces communautés-là. Mais on voit, quand on va les rencontrer, qu'il y a quand même une fracture, encore une fois, au sein de la famille, avec les jeunes qui glissent malheureusement vers cette société de consommation et qui glissent vers la facilité. En fait, ce qui est très appétant dans notre société, c'est notamment l'alcool, l'argent facile. Et ça crée des ravages en fait dans des communautés qui ne sont pas préparées à une transition aussi brutale en fait.
Au niveau de l'environnement et de la préservation des écosystèmes, quel est le regard un peu de ces jeunes que vous croisez qui ont une appétence envers nos sociétés capitalistes? Est-ce qu'elles ont, de façon générale, quel est leur regard sur la nature, l'environnement et la préservation de la biodiversité?
Ça dépend vraiment beaucoup de la communauté. Il y en a qui baissent les bras, en fait, qui préfèrent aller en ville et qui préfèrent, pour des bonnes raisons aussi, des fois, devenir avocat, devenir professeur, avoir des ambitions d'intégration dans une autre société. Et donc, ça, c'est tout à fait louable. D'autres, en fait, qui n'ont pas envie de suivre un petit peu le schéma de leurs parents et puis le rapport que leurs parents avaient avec la nature. Mais à contrario, il y a des communautés comme la dernière que je suis allé voir en Équateur, en Amazonie équatorienne, qui sont très fiers en fait de leur culture et de leur rapport avec la nature. Et il y a une véritable volonté, une véritable volonté d'essayer de garder ce patrimoine-là, et même les jeunes se battent de plus en plus en fait. Et ça c'est inspirant, c'est déjà encourageant pour la suite, mais c'est aussi parce que ces populations-là ont été envahies, on va dire, par d'autres communautés, que ce soit des missionnaires, que ce soit des industriels, notamment des pétroliers. Donc ils ont eu ce sentiment d'avoir une intrusion sur leur territoire, donc ils essaient de se défendre par rapport à ça. Donc ils mettent en avant leur fierté, leur patrimoine culturel et naturel, donc ils ont cette volonté de se battre pour le défendre. Alors que d'autres, peut-être, ont été connectés au monde moderne avec des facilités en fait d'aller vers lui, avec de l'argent facile peut-être trop d'aide sociale, peut-être. Et ils n'ont pas eu cette violation de territoire comme d'autres l'ont eu, donc ils n'ont pas eu à se battre pour le protéger. Donc ils ont préféré glisser vers la société de consommation. Je suppose qu'il y a ces deux aspects-là. Oui.
Chez les peuples premiers, bien souvent, il y a une sacralisation de la nature. Est-ce que nous, il faudrait peut-être revenir à une forme de sacralisation de la nature pour la protéger?
Alors ça, c'est un vaste débat. C'est vrai que, de notre point de vue d'occidental, on est tellement déconnecté de la nature, surtout quand on est dans un milieu urbain, qu'on a tendance à lui donner des attributs qu'elle n'a pas, en fait. On la romance, on la fantasme, on la voit belle, on la voit cruelle, on la voit utile, on la voit à dominer. Et tout ça, c'est des sentiments qui nous trompent, en fait. Certains peuples premiers, pas tous, ont une vision beaucoup plus neutre envers la nature, parce qu'il ne la distingue pas de la société. Nous, on a vraiment distingué la société et la nature. C'est deux choses séparées. Alors que eux, non, pas forcément. Surtout en Amazonie, on a ce tout en fait qui fait que les Amérindiens ne portent pas un regard romantique sur la nature. Ils respectent son altérité en fait. La nature, elle est pas belle, elle est pas dure, elle est pas cruelle, elle est pas dangereuse. Elle est telle qu'elle est en fait, tout simplement. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on retrouve en fait dans nos sociétés. Cette notion d'altérité de la nature. Et à partir de là, essayer juste de respecter en fait son fonctionnement. Et sans aller trop loin dans des dérives de domination ou de contemplation naïve, on va dire.
En Amazonie, comment se battent les peuples premiers contre la déforestation et les autres enjeux environnementaux? Et quels sont les autres enjeux environnementaux là-bas?
Alors, l'avantage, un des rares avantages de notre monde moderne et de cette société de consommation qui est à leur porte et qui a déjà touché plusieurs communautés, c'est qu'elle leur a apporté aussi des outils de communication et notamment des réseaux sociaux. Et en fait, c'est à travers ces réseaux sociaux qu'ils arrivent à se battre de manière beaucoup plus large, en fait. Et ça, c'est un point positif parce que sinon, les communautés restaient assez isolées et avaient du mal à revendiquer leurs droits parce que c'était que quelques dizaines d'individus. Maintenant qu'ils arrivent à communiquer entre eux et même entre ethnies qui étaient autrefois rivales et à se fédérer, en fait, ils ont beaucoup plus de poids au niveau du gouvernement équatorien. Là, je parle en l'occurrence de l'ethnie des Waorani que j'ai rencontré il y a quelques années. Et donc là, on voit qu'ils ont un impact plus fort, en fait, auprès de la société civile parce qu'ils sont plus nombreux et ils communiquent mieux, en fait. Donc ça, c'est l'avantage, parce qu'il n'y a quand même pas que des défauts, mais l'avantage d'apprendre à parler espagnol dans ce pays équatorien et d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux, ça leur apporte plus de force pour protéger leur territoire.
Et par exemple, chez les Waorani, je ne me trompe pas dans la prononciation.
Waorani.
Chez les Waorani, quelles sont les problématiques autour de l'environnement?
Alors, chez les Waorani, il faut imaginer qu'ils sont dans un territoire très reculé de l'Amazonie équatorienne, donc vraiment au fin fond de l'Amazonie. Et dans ce territoire-là, qui en plus, pour une très grande partie, fait partie d'un parc national, il y a des sites industriels, notamment d'exploitation pétrolière, mais il y a aussi de l'exploitation aurifère qui arrive. Et donc ces sites-là dévastent, en fait, ont vraiment un impact environnemental colossal. Ils créent en plus des pistes à travers la forêt qui du coup tranchent vraiment, enfin, font des saignées dans la forêt, coupent des cours d'eau, acheminent des pipelines remplis de pétrole qui régulièrement fuient et donc déversent du brut dans la nature. Et ça a traumatisé un petit peu les Amérindiens parce que déjà ils n'étaient pas habitués à voir des véhicules passer, à voir ce bruit-là, cette poussière-là, et à voir du coup cette pollution qui contamine à la fois la forêt, mais aussi les cours d'eau, et qui va en aval contaminer d'autres communautés qui sont beaucoup plus éloignées de ces exploitations pétrolières. Il y a cette problématique-là, vraiment à l'instant T, en fait, des pétroliers, mais aussi il y a une problématique beaucoup plus sournoise, en fait, c'est que pour se faire accepter par les communautés autochtones, les pétroliers, ils ont soudoyés. Alors, ils ont divisé pour mieux régner et ils leur ont offert des cadeaux. Mais ça va de la bouteille de Coca-Cola à un bidon d'essence pour des gens qui ne connaissaient pas le moteur à explosion. Et donc, ils leur ont offert des moteurs avec des pirogues à moteur. Ils ont offert C'est vraiment un petit peu comme à l'époque des conquistadors, quoi. Ils leur ont offert des cartouches de cigarettes, etc. Et donc, on a eu beaucoup de dépendance à l'alcool, on a eu beaucoup de... L'argent est rentré dans leurs mœurs, ils n'ont pas su le gérer, donc ils sont partis dans les villes pour essayer d'en trouver plus. Il y a eu beaucoup de mendicité, de prostitution. Donc, cette introduction malsaine de notre société au sein de ces communautés a créé des ravages, plus les ravages environnementaux qui ont suivi ensuite.
Tu parlais du fait que leur territoire est sur un parc national. Est-ce que ces labellisations de parcs, ça peut être une solution? Là, en l'occurrence, on n'a pas trop l'impression que c'est une solution et que les industriels en font à leur...
Oui, c'est vrai que c'est les premiers, les Équatoriens, à se révolter contre ça, parce que ce n'est pas normal que dans un parc national, on ait des sites industriels. Pour remonter un petit peu l'histoire et pour la résumer, c'est vrai qu'il y a énormément de pétrole dans le sous-sol équatorien et que le pays est très pauvre. Mais vraiment pauvre dans les années 2000, il a même perdu sa monnaie. Donc ils n'ont même plus de monnaie, ils sont au dollar américain. Dans les années 2010, je crois que oui, c'était dans les années 2010, le président Correa avait tiré la sonnette d'alarme et sollicité la communauté internationale pour se faire aider. Parce qu'il savait bien qu'en fait, soit il essayait de rembourser les dettes avec des exploitations pétrolières étrangères qui venaient aspirer toutes ses ressources sur son territoire et du coup abîmer aussi l'environnement et les sociétés, soit il recevait une contrepartie de la part des gouvernements pour ne pas justement mettre d'exploitations pétrolières dans ces territoires préservés. Donc il y a eu des avis un petit peu, enfin des réactions un petit peu différentes. Il y en a qui ont admiré un petit peu ce geste-là. Aidez-moi et je préserve cette biodiversité exceptionnelle que j'ai sur mon territoire. Et d'autres qui ont dit non, mais c'est du chantage, on va pas les aider. Et donc ils ont demandé, quelques milliards. de compensation, d'aide financière à la communauté internationale. Et finalement, je crois qu'il n'y a que quelques pays d'Amérique du Sud et l'Europe qui ont donné, mais l'équivalent de quelques millions d'euros, quelques centaines de millions peut-être. Ça n'a pas été suffisant. Et à partir de là, ben, le président Correa a dit que, ben, il n'aimait pas le pétrole, mais il aimait encore moins la misère. Et donc, si le pétrole pouvait sauver son peuple, ben, il exploiterait jusqu'à la dernière goutte. Donc, il a signé un arrêté comme quoi, ben, voilà, il autorisait les exploitations pétrolières de continuer à fourrer dans les parcs nationaux.
De cette vision que tu as de problématiques qui est comme ça dans ces régions reculées, quelle vision tu as de nous en France, notre politique française en matière d'environnement et d'écologie, et comment on pourrait changer le paradigme?
Ouais, c'est vrai que c'est en partant à l'étranger, c'est en rencontrant ces populations-là qu'on a le recul qu'il faut en fait pour vraiment savoir ben, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, d'où ça vient tous ces soucis-là. Et de manière récurrente, vraiment, la bête noire qui revient, c'est l'hyperconsommation. En fait, c'est cette addiction au fait qu'on ait besoin de toujours plus de biens matériels. Qu'on finit par être possédé par nos possessions et ça nous rend addict. En fait, on a besoin de plus, de plus, de plus. Forcément, ce modèle social, il n'est pas universalisable. On ne peut pas l'étendre sur toute la planète. Il n'est pas tenable non plus. Et il est mauvais pour notre santé même physique, quoi. Il y a énormément d'obésité, il y a énormément de dépression. On voit bien qu'on ne va pas bien, que ce soit en France et dans d'autres pays occidentaux. Et c'est justement en faisant ce constat-là, par rapport aux peuples premiers qui n'ont pas cette addiction-là, ben qu'on se rend compte qu'en fait, il ne faut pas chercher une solution ailleurs. Il faut enlever un problème qu'on a déjà chez nous, en fait. Et surtout pas contaminer ceux qui sont encore préservés de cette hyperconsommation-là, en fait.
Et alors, de façon très concrète, par quoi ça peut passer?
Bah, je pense qu'il faut déjà lever le pied par rapport à notre consommation individuelle. Il faut moins aller dans les supermarchés, il faut essayer de se préserver de la publicité. Il ne faut pas hésiter à faire un bilan carbone aussi de ces émissions personnelles, parce qu'on va... On va indirectement comprendre que beaucoup sont liés à des biens de consommation. Et donc, on voit par où on peut actionner des leviers, qu'est-ce qu'on peut réduire. Et encore une fois, peut-être avoir un regard neutre sur l'environnement et sur les sociétés pour pas trop la contempler de manière naïve parce que oui, ça serait naïf de penser que certaines populations vivent en harmonie avec le vivant depuis la nuit des temps. C'est pas vrai, toute société est amenée à évoluer, elles ont toutes évolué, même les populations amérindiennes. Et on ne peut pas, nous, les en empêcher, en fait. On n'a pas de légitimité pour dire « Non, je préférerais que vous restiez à poil dans la forêt parce que c'est l'image que j'en ai, romantique, et c'est comme ça que je veux continuer à vous voir. » Donc, il faut vraiment penser à se remettre en question à ce niveau-là. Et aussi des petits détails aussi, se rapprocher un peu plus de sa propre famille, en fait. Quand on essaie d'être militant, par exemple, qu'on fait des manifestations et qu'on va hurler à tout va contre tel gouvernement, contre tel lobby ou telle entreprise, mais qu'on n'arrive pas à résoudre ce genre de problématique au sein même de sa famille, là, c'est compliqué, en fait. Parce que c'est toujours plus facile de crier que d'aider ses proches à s'améliorer. Donc quand on arrive à réduire sa consommation et ses émissions de CO2, eh bien, il faut aussi faire la démarche pour accompagner les autres. Ça sera forcément vertueux et gratifiant. Donc je pense que c'est trois piliers-là, en fait, c'est ça. C'est réduire sa consommation, aider les autres et restaurer la nature, en fait, avec cette idée de se reconnecter avec le vivant d'une manière un peu plus saine et un peu plus lucide.
Tu parlais au début de cette interview des projets de conservation que tu peux mettre en place ou participer à ce type de projet. Donc, dans ton travail, il y a à la fois observer, conserver, et puis à travers tes conférences, essayer de reproduire, enfin peut-être instiller chez les gens des conseils. Est-ce que tu viens de dire là jusque-là dans cette interview des réflexions qui pourraient peut-être changer la donne?
Oui, alors ben, là justement, tout à l'heure, je vais aussi mettre l'accent sur l'étude qui a été menée par l'Université de Cambridge il y a quelques années sur le déni qu'on fait face aux problématiques environnementales et sur le déni de l'action, en fait. Et on appelle ça, en fait, les excuses de l'inaction. Et il y en a 12 qui reviennent de manière récurrente, 12 excuses qu'on s'invente tous en disant « oui, mais ça va le faire, on fait des petits gestes, ou les gens ont de la bonne volonté, ça va s'améliorer, ou le progrès technologique va nous aider, ou alors au contraire, ben non, c'est trop tard, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, autant profiter, ou alors si on agit de notre côté mais que les autres ne le font pas, on va être en déséquilibre économique, c'est pas bon. » Et voilà, il y a toujours une douzaine, en fait, à peu près, d'excuses qui reviennent. Et cette étude, elle est très intéressante parce qu'elle les montre vraiment. On arrive à se reconnaître déjà dedans par rapport à ses propres réflexions, par rapport aux réflexions de son entourage. Et là, j'apporte quelques petites astuces pour savoir y répondre, en fait.
Par exemple ?
Typiquement, on peut dire... Ça, c'est souvent le discours un peu collapsologique de la chose, en fait. On a l'impression qu'on va vivre un effondrement total et au scénario hollywoodien, en fait, catastrophique. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est une multitude d'effondrements locaux et régionaux, en fait, qui vont arriver. Et donc, ces effondrements régionaux sont beaucoup plus faciles à réguler qu'un effondrement catastrophique
mondial.
Voilà. Alors certes, ça fait plus de 30 ans que le GIEC nous dit qu'il faut vraiment agir, mais il a pas dit que c'était trop tard. Il dit encore aujourd'hui qu'il est temps d'arrondir les angles. Donc il faut garder cet esprit positif parce qu'il est nécessaire, vraiment.
Et par exemple, sur une autre...
Alors peut-être à l'inverse, alors ceux qui pensent qu'on n'émet pas assez en France par rapport à d'autres pays comme les Chinois qui émettent beaucoup plus, et que voilà, c'est pas à nous d'agir, c'est aux Américains, aux Russes, aux Chinois de commencer à faire le travail. Et ça, c'est vraiment typiquement des enfantillages, en fait. Parce que déjà, on confond l'inventaire national de nos émissions françaises avec vraiment la globalité de nos émissions qui viennent aussi de l'étranger. Et c'est typiquement l'argument du type qui critique les usines chinoises de polluer au charbon pour fabriquer ses propres biens matériaux que lui a besoin, en fait, qu'il utilise ici en France. Donc là aussi, on a des caricatures sur ces excuses-là qui permettent de bien cibler, et puis des quelques arguments qui permettent aussi d'aider pour les soirées autour de la table pour trouver une solution, ouais. En gros, voilà, je mets en lumière d'un côté une société qui a dérivé dans l'hyperconsommation, et d'un autre des sociétés qui n'ont pas encore atteint cette maladie-là, cette addiction-là. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il faut plutôt regarder vers cette sobriété et cette frugalité presque que les autres font preuve, parce qu'au final, on se rend compte qu'ils sont plus heureux, tout simplement. On l'a très bien vu, nous, pendant le Covid, on est dans une société tellement individualiste qu'en fait, on n'arrivait pas à faire face à cette crise-là. Il y a eu beaucoup de dépression. Alors qu'eux, ils sont plus pauvres. Ils sont parfois dans des milieux géographiques très contraints, très contraignants, des îles, des vallées isolées, etc. Donc, ils sont plus habitués à rester soudés entre eux et à partager, à se baser sur la solidarité, l'entraide, etc. Et du coup, ils sont plus résilients par rapport à des crises auxquelles nous, on n'aurait pas réussi à faire face parce qu'on se sentait tellement seul. On était loin de nos parents, loin de notre conjoint parce qu'on zappe très facilement, loin de nos enfants parce qu'on les met à la crèche, on les voit plus. Et du coup, tout ça nous déshumanise. Et ce qu'il faut voir dans les autres sociétés, c'est que elles sont souvent plus humaines, en fait.
Est-ce qu'il y aurait une parole d'une personne, d'une communauté que tu as rencontrée qui t'a marqué ?
Oui, alors... Un des objectifs, en fait, de mes expéditions, c'est de les préserver du mirage, en fait, qui se fonde de notre société, d'avoir cette envie de mimétisme, en fait, de nous recopier, parce qu'on a tous envie de recopier le modèle dominant, comme nous on recopie les Américains, ben voilà, les Asiatiques essaient de nous recopier. Et ce qui m'avait marqué, c'est une petite fille en Indonésie, sur une île vraiment ultra reculée, une île déserte, avec juste sa maison, avec voilà, sa grand-mère, sa mère et elle, et le petit-fils. Et cette petite fille, en fait, elle était un peu désabusée par la pollution aux déchets plastiques qui arrivaient dans cet endroit très reculé et paradisiaque, qui arrivait parce que ils ont commencé à nous recopier sur l'usage des plastiques, sur l'utilisation des plastiques à usage unique. Et donc elle trouvait que la nature était dégradée et que c'était triste de faire ça. Et donc j'essayais de lui poser des questions sur comment elle voyait son avenir, si elle avait envie déjà de rester là ou si elle avait envie de partir. Et elle me disait qu'elle avait envie de partir et qu'elle voulait aller en France justement. Alors certainement parce que nous on était français et qu'on était là, et donc ça la faisait miroiter. Et j'ai demandé mais pourquoi en France ? Et elle me disait parce que certainement que chez vous, en fait, l'environnement est préservé parce que vous savez prendre soin de votre environnement. Et c'est étonnant, en fait, de voir un petit peu l'illusion qui se fonde de notre société occidentale, parce que forcément, c'est des images qu'ils voient et ils pensent que chez nous, tout est rose et tout est beau et que c'est vers ça qu'il faut tendre, alors que moi, j'étais parti chercher l'inverse, j'étais parti chercher plus d'humanité chez eux et plus de bien-être, en fait.
Et comment on casse cette mythologie un peu, la mythologie de l'homme blanc et puis aussi de l'autre côté, la mythologie du peuple premier, comme tu le disais tout à l'heure, idéalisé.
Ouais. Ça se fait par beaucoup de sensibilisation, des conférences ici, beaucoup de sensibilisation aussi là-bas. On parle beaucoup, j'écoute beaucoup. Avant de mettre en place des projets, il faut vraiment beaucoup échanger. Et quand la confiance est établie avec ces populations locales, des fois, je leur apporte finalement que peu de choses, puisqu'en fait, ils sont déjà bien aguerris. Mais j'en récupère aussi beaucoup de mon côté, en fait. Mais l'important, c'est le dialogue, c'est la communication. C'est aussi ce qui manque. Tu parlais de l'écologie aujourd'hui en France. Je pense que c'est ce qui manque, c'est la communication autour des projets, en fait. Il n'y a pas assez de sensibilisation auprès du public. Donc, quand des décisions sont prises, à tort ou à raison, elles sont tellement mal communiquées, tellement mal expliquées qu'en fait, on a toujours du mal à les accepter parce qu'on ne les comprend pas, en fait.
Quand on est aventurier comme toi et qu'on aime explorer des contrées reculées et qu'on est sensibilisé à l'écologie, comment on gère l'envie d'aller loin et notre volonté de ne pas trop impacter l'environnement ?
Ouais, c'est une bonne question, ouais. Pour ma part, moi, si je me suis mis à mon compte aussi, c'était pour réduire mes allers-retours en avion. J'ai divisé par 8 mes vols annuels, ce qui me permet aussi d'avoir le temps de mieux préparer mes projets et de mieux les savourer, en fait. Et à titre personnel, je pense que les gens aussi devraient s'inspirer de cette modération pour rendre leur voyage plus intéressant, plus passionnant, plus grand, parce qu'ils sont plus rares, en fait, tout simplement, comme l'alimentation. Si on aime la viande, autant manger moins, mais mieux, tout simplement, et on la savourera plus. Et puis c'est pareil pour les voyages, il faut prendre le temps de se languir de partir, et prendre le temps à son retour de savourer un petit peu avec nostalgie ce qui a été vécu, avant de passer sur autre chose. Et forcément, là, ça enlève le pied, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça ? Et oui, ce qui est important aussi, c'est que dans l'exploration, si tu veux, la démarche, en fait, elle suit aussi la maturité de enfin, ma propre maturité, en fait, c'est qu'au début, quand on est jeune, on a envie de faire de l'aventure. Puis ça symbolisait aussi une époque, dans les années 2000. On a envie d'aventure, on a envie d'exploration, on a envie de découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux paysages. Mais petit à petit, on a envie aussi de donner du sens à ces voyages-là. Et donc, à forcément lever le pied aussi pour pas justement être contre ses propres convictions, en fait. Donc typiquement, les populations locales que je vais rencontrer, ces peuples premiers, je ne vais pas rencontrer ceux qui sont encore isolés, qui n'ont jamais connu l'homme blanc, parce que je risquerais d'avoir un effet pervers, en fait, tout simplement de polluer, en fait, ces populations-là. Donc je vais d'abord voir ceux qui sont déjà, en fait, dans cette situation critique de contact et qui sont en train de glisser vers la mauvaise pente, pour essayer de les aider, en fait. Mais je ne vais pas plus loin. L'exploration, c'est super, ça m'a beaucoup plu, mais je le referai plus. Ça n'a plus d'intérêt, même quand je vois des très beaux documentaires sur des expéditions sportives, des traversées de cordillères ou d'océans. Bah, quelquefois, je me dis, c'est un peu égoïste quand même. Mais bon, c'est vraiment un avis personnel. Si je dois faire un voyage, il faut que j'y donne du sens. Et donc, je le ferai pas pour un plaisir personnel d'aventure uniquement ou de défi sportif.
Il y a un aspect transmission dans ton travail
oui.
qui est important.
Voilà, oui, il faut qu'il serve sur place et au retour en sensibilisant le public. Ouais.
Tu as parlé de documentaires que tu faisais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'on peut les...
Oui, oui. Alors, ben, en fait, donc là, c'est une nouvelle casquette en fait que je rajoute à mon métier un petit peu atypique parce que encore une fois, il n'y a pas de définition très parfaite. Je tourne toujours autour en train d'essayer de chercher ce que je fais vraiment. De ces expéditions-là et de ces expériences de terrain-là que j'ai effectuées. À travers mes différentes expériences professionnelles, à travers mes différents métiers précédents, en fait. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et de raconter ce que je vivais sur le terrain et de montrer à mon retour ici, au travers d'un documentaire, à quoi ça ressemble et ce qui se passe là-bas, en fait. Et donc, j'ai mis cette casquette de réalisateur sur ma tête et je me suis fait accompagner par des amis notamment, deux amis qui sont réalisatrices sur mes deux dernières expés. Et on a fait de la co-réalisation. Donc moi, j'avais peut-être le projet, le territoire, je connaissais les enjeux. Et elle savait comment filmer, comment monter, comment raconter une histoire. Et donc, on s'est complété et on a créé deux documentaires qui sortent cette année. Le premier sur la mer de Banda, en Indonésie. Donc ces fameuses petites îles très reculées... Oui, il y a cette petite fille que j'ai retrouvée qui m'inspirait beaucoup. Et donc voilà, je raconte un petit peu la vie de sa famille à travers cette population qui est issue de l'ethnie Bajau. Donc c'est des nomades des mers qui vivent là-bas et qui ont pareil un patrimoine culturel qui est très fort, mais qui disparaît au profit de justement un mode de vie plus sédentaire et plus proche de notre société de consommation aussi, pour leur bien comme pour leur mal malheureusement. Et après, ils subissent aussi d'autres problématiques environnementales comme la pollution en plastique, la surpêche, les boues rouges qui proviennent des mines de nickel qui dévastent les forêts primaires. Et donc, j'ai voulu mettre en avant sur ce territoire-là les merveilles à la fois environnementales et humaines, mais aussi les fragilités et les menaces qu'ils subissent. Donc ça, c'est pour le documentaire de la mer de Banda qui est sorti là, il y a quelques semaines. Il s'appelle « Banda, une odyssée dans les îles oubliées d'Indonésie ». Donc si vous tapez ça sur Google, vous le trouvez. Et ensuite, l'autre sur les Waorani, donc Waorani à l'orée d'un nouveau monde. C'est un 52 minutes qui a été produit aussi par une boîte de production qui s'appelle Way Studio et qui va être diffusé ensuite à partir du mois de novembre dans des chaînes télé. Là, on va voir quelles chaînes prennent, mais il y a déjà des chaînes régionales. Et donc ces deux films, ils ont aussi pour objectif d'appuyer mes conférences et mon envie de sensibiliser le public ici, notamment au travers de festivals de films d'aventure et d'environnement qui se retrouvent un petit peu partout en France. Il y a beaucoup de villes qui proposent ce genre d'événements. Et donc, voilà, progressivement, j'essaie d'inscrire mes deux films dans ce genre d'événements. Et ensuite, le film est projeté devant un public sur ces festivals-là. Et puis j'interviens ensuite sur scène pour raconter l'expédition et pour aller un peu plus loin dans la démarche de sensibilisation pour essayer d'apporter un peu plus de... je trouve pas le mot. Voilà, de sensibilisation. Bon,
chacun complétera la phrase comme il le souhaite. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Bonne conférence à toi. Bonne soirée.
Merci.